Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Tout le monde rêve d'acheter un terrain, de construire sa propre maison, au moins, voilà. Donc, au moins, plusieurs personnes ont toujours ce rêve-là. Cependant, certains pensent que la construction coûte trop cher. L'achat des matériaux tels que les ciments, les barres de fer et autres matériaux occasionnent d'énormes dépenses. Cependant, les architectes estiment qu'on peut construire sa maison à moindre coût, à moindre frais. Comment s'y prendre alors? Deschamps Gandou est architecte, on va s'entretenir avec lui. Et vous avez un projet, vous voulez construire une maison, eh bien, soyez attentifs parce que vous allez apprendre des choses. Deschamps Gandou, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, beaucoup de gens estiment aujourd'hui qu'il est, il n'est pas donné à tout le monde de construire parce que ça coûte trop cher. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
Merci beaucoup, Jody, pour l'invitation. Comment construire avec peu de moyens, c'est là la problématique du jour. Je voudrais au départ, faire voir aux auditeurs que depuis la nuit du temps, on a toujours dit que la construction, c'est une affaire des gros sous. Cette expression a fait que beaucoup de gens se sont sous-estimés ou plutôt pensent que non, voilà, construire une maison, construire son habitat, construire son environnement est réservé à une certaine classe de la population, à des riches par exemple.
Oui.
Alors aujourd'hui, les architectes sont en train de développer une certaine expertise en économie de la construction, ça c'est d'une part, mais d'autre part, il y a aussi les erreurs, ou plutôt l'absence de certains principes de la part des clients, qui font que lorsqu'on se lance dans un projet, on se retrouve en train de dépenser et chemin faisant, on abandonne. Aujourd'hui, les statistiques fiables ou en cours démontrent que 80% des constructions inachevées aujourd'hui que vous voyez à travers les villes,
oui,
sont liées au fait que ces gens-là n'ont pas manqué de moyens. Mais tout simplement, ils ont manqué des conseils, des guides pour pouvoir commencer une construction et l'achever. Donc, autrement dit, je vais dire comment commencer une construction et l'achever. C'est autour de ça que je voudrais qu'on échange aujourd'hui avec les auditeurs. Oui. Il y a au centre de la préoccupation, comme toujours, des acteurs majeurs. D'une part, il y a l'architecte qui a sa part, et d'autre part, il y a les clients. La part de l'architecte, c'est-à-dire promouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, des techniques d'expertise pour arriver à alléger les constructions. Ça relève de la manière dont il emploie son imagination créatrice, de la manière dont il fait recours à la structure, de la manière dont il fait recours au choix de matériaux et à la période. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on s'attarde beaucoup plus en aval. En aval, c'est-à-dire qu'est-ce que les clients doivent faire, comment ils peuvent faire pour arriver à construire au moindre coût.
Voilà, vous savez, souvent, les clients, ils se plaignent souvent. Voilà, j'ai eu un architecte qui m'a dit, voilà, il m'a fait un devis pour construire ta maison, il faut autant, il faut telle quantité de matériaux, mais pendant les travaux, il y a d'autres dépenses, des imprévus, alors on sort l'argent et à la fin, on n'arrive plus à achever la construction.
Exactement, oui. Ça, c'est le grand problème. Mais vous savez, en toute chose, tout projet qui réussit, toute entreprise qui réussit est fondée sur certaines planifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous sortez les matins et que vous arrivez au centre-ville sans programme, vous vous retrouvez en train d'acheter un pantalon, d'acheter une veste, sachez que vous avez perturbé les choses quelque part et que vous pouvez peut-être subir des conséquences. Mais si avant d'acheter un pantalon, avant de s'acheter en fait, une voiture, vous avez planifié cela. Vous vous êtes dit, quels sont mes moyens? Quand est-ce que je peux acheter? Comment réunir les moyens pour pouvoir acheter? Et quel type de voiture? J'espère que le jour où vous achèterez cette voiture-là, vous n'aurez pas à regretter, vous n'aurez pas à faire souffrir certains paramètres de votre existence. La construction, c'est aussi un projet. Qui dit un projet voit les coûts, un projet, il a un délai, un projet, il a une qualité. Alors que lorsqu'on se lance dans une construction avec un architecte, bien sûr, l'architecte vous définit ou détermine les coûts de la construction. Il va vous dire, par exemple, que cette construction va vous coûter 50 000 $. Et puis, il vous fait voir encore que non, voilà, cette construction qui va vous coûter 50 000 $ sera une construction de telle qualité. Et en troisième lieu, il va vous faire voir que cette construction, avec ces 50 000 $, partant, par exemple, de ma façon de voir les choses, je peux la réaliser dans 10 mois. Ça, c'est un exemple. L'architecte vous donne ces sous-bassements-là.
Oui.
Mais voilà la première grande erreur qu'on relève de la part de l'entrepreneur en face.
C'est laquelle?
On vous dit que je sais vous faire cette construction dans 10 mois.
Mmh.
Mais l'absence de communication va faire en sorte que le projet ne se termine pas dans 10 mois. Vous savez que vos moyens ne vous permettent pas de finir la construction dans 10 mois. Vous ne savez pas réunir 50 000 $ dans 10 mois. Mais il faut faire voir cela à l'architecte, que non, voilà, je sais avoir de l'argent, mais je ne sais pas réunir 50 000 $ dans 10 mois. Vous vous basez sur une fois avec, vous dites, ok, allons-y, on va voir. Donc ça, c'est un projet qui, dès le départ, est voué à l'échec. Faites voir à l'architecte, ouvrez une communication, un dialogue, que non, voilà, mes revenus sont de ce genre. Je gagne autant, et dans ce que je gagne, j'ai de la famille, j'ai telle préoccupation, voilà ce que je voudrais affecter à la construction. Par exemple, je voudrais affecter à la fin de chaque mois 500 $ à construction. Alors, dans ces cas-là, l'architecte vous fait un plan échelonné. Il vous dit, ok, nous allons construire la fondation. Dès que nous allons construire la fondation, nous allons arrêter.
Oui.
Parce que ça, c'est une étape importante.
Ouais,
puis,
bah, oui, et
des choses, réunir le moyen.
Des choses, il semble que dans la construction, c'est beaucoup plus la fondation qui prend beaucoup d'argent au départ et après, c'est les travaux de finition.
Bon, je vais dire les grosses œuvres, mais de tout dépend de la finalité et de la destination qu'on voudrait donner à un ouvrage. Vous pouvez vous lancer dans la construction d'un studio, c'est-à-dire une petite construction de 2 mètres sur 2. Mais là-dedans, vous vous dites que je vais avoir un parterre en marbre, je vais avoir un faux plafond en staff, et qu'en parallèle, il y a quelqu'un qui commence une construction ordinaire de 100 mètres carrés, mais qui veut la finir de manière standard. Donc, dites-vous bien que le studio va coûter plus cher que la construction parallèle qui recourt à une finition standard. Donc, le tout dépend de la destination qu'on voudrait donner à l'architecte. Mais le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est ouvrir un dialogue avec l'architecte. Parce que c'est lui qui a mis en place la planification. C'est lui qui a dégagé le moyen. Alors, lorsque vous savez vous le faire voir, que non, voilà, je ne saurais pas réunir ces moyens, pendant cette période, il ne va pas vous dire que c'est impossible. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'extension dans la construction. Vous pouvez commencer, vous arrêter, vous commencez une étape, vous arrêtez. Cela n'aura pas de l'incidence dans ce qui est déjà fait précédemment. Mais lorsque, un matin, sur une planification, vous faites voir à l'architecte que non, je suis essoufflé, on arrête. On arrête avec un tas de sable sur chantier. Au bout de quelques mois, l'herbe va pousser au-dessus. On arrête avec des caillages qui sont entassés quelque part. Au bout de quelques temps, il y a la terre qui se mélange là-dessus. Alors, lorsque vous allez reprendre, considérez que tous ces matériaux qui étaient entassés, pas de manière prévisionnelle, sont dispersés. L'outillage qui était placé quelque part va se détériorer. Et lorsque vous commencez, c'est comme si vous commencez une reconstruction des chantiers.
Voilà, donc la première chose, la première étape, il faut avoir un dialogue franc avec l'architecte. Il faut lui dire la vérité par rapport à l'argent que vous avez en main pour construire. Alors, Deschaux, nous avons déjà 2 auditeurs en ligne, Grace Mimpou et Akikuit. Freddy Mutumbwe nous appelle des Chilengue au Kasaï Oriental. Vous voulez également participer, composez les 081-890-63-94.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Comment construire avec peu de moyens? Grâce à Mimpou, vous êtes à Kikuit. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question, Grâce? On vous écoute, Grace. Ben, il n'est plus en ligne. Freddy Mutumbwe de Chilenge, bonjour. Freddy, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je voulais d'abord dire ceci à l'invité avant de lui poser un peu ma question. Il y a une chose qui décourage les gens, par exemple ce que nous observons ici. Quelqu'un qui réunit peu de moyens, il contacte son architecte. Celui-là, il met à son tour des entrepreneurs. Maintenant, ces gens-là, nous observons qu'ils sont en train, avec le coût de ciment ici, ils sont en train de vendre le ciment. Cette histoire-là décourage les gens. C'est par là que je sors un peu ma question, je pose à l'invité cette question-là. Comment remédier à une situation comme ça? Merci beaucoup.
Merci bien. Deschongano.
Ok, merci beaucoup Freddy. Tout à l'heure, je disais que dans l'esprit des architectes contemporains, dans la recherche des architectes contemporains, ils sont en train de développer une certaine expertise dans l'économie de la construction. C'est-à-dire que, partant du moment où je vous ai fait un devis de la fondation, selon lequel j'ai dit que non, voilà, cette fondation va prendre, par exemple, 40 sacs de ciment, je suis conséquent par rapport à mon devis, parce que je fais des études appropriées. Je peux ne pas être régulièrement sur chantier, mais en suivant l'évolution à travers la direction des travaux, soit où je plaçais un délégué à pied d'œuvre sur place pour surveiller l'exécution au quotidien. Dès lors que la fondation a déjà atteint, par exemple, une évolution autour des 60% et que je regarde en proportion, je considère que le stock que j'ai ne saura pas finir le reste du travail. J'ai été alerté les clients pour le faire voir que non, il y a quelque chose d'anormal sur les chantiers. Parce que la quantité de ciment qui reste telle que je l'avais évaluée est telle que ça ne pourra pas finir cette fondation. Donc, il y a vol. Donc, à ce moment-là, je ne vais pas attendre. J'alerte les clients. C'est pour cela que on a toujours dit que voilà, l'architecte, il est très important du début à la fin de la construction. Parce que dans la direction des travaux, il a des mécanismes qu'il a mis en place pour pouvoir suivre les projets. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'expression « les projets commencent à pleurer ». Lorsqu'on dit que les projets commencent à pleurer, c'est-à-dire qu'il y a des choses anormales qui commencent à se passer. Soit il y a des fuites de ciment, soit par exemple il y a des fols de matériaux, soit il y a ce genre de choses, on alerte les clients pour lui dire que non, il faut qu'on arrête. Si vous avez par exemple un surveillant sur chantier, si vous avez un magasinier, alors il faut voir de près avec lui parce qu'il y a quelque chose d'anormal. Je suis ici en train de me situer dans des petites constructions, c'est-à-dire dans des constructions des citoyens moyens.
Oui.
Pourquoi cela? Parce que vous savez que aujourd'hui, dans notre pays, les constructions HLM, c'est-à-dire habitation, ou plutôt habitat à loyer modéré, les dernières qui ont été construites dans cette ville datent d'il y a très très longtemps. Je vois par exemple la cité des Lemba, je vois la cité des Yolo, je vois la cité des Bandales. Il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles constructions. Nous n'avons pas, par exemple, des banques d'habitat actuellement. Ce qui fait que ce sont les citoyens, de par leurs propres efforts, de par les économies, qui arrivent à se lancer dans la construction. Dès lors qu'il y a cet effort-là, manifeste la part de la personne de pouvoir se doter d'un toit, c'est ainsi que nous aussi, on a développé ces mécanismes, on a développé cette expertise pour pouvoir aider les personnes à commencer, à finir. Parce que ça ne fait toujours pas beau lorsqu'on voit des maisons inachevées et qu'en suivant des prêts, on réalise que non, voilà, ces personnes avaient de moyens, mais ils ont été faussés par des conseils, plutôt par l'absence, par exemple, d'un encadrement de la part des architectes.
Voilà.
Donc, il y a des mécanismes que l'architecte met en place pour pouvoir alerter les clients que non, voilà, il y a quelque chose d'anormal.
Alors, à des choses, dites-nous, à part le dialogue franc avec l'architecte sur le revenu, quels sont les autres critères, les autres éléments qui peuvent aider à construire avec peu de moyens?
Ok, à part le dialogue, j'aurais pu commencer par là, le choix du terrain. Le choix du terrain, c'est quelque chose de très fondamental. Vous êtes un fonctionnaire en fin de carrière, vous voulez vous construire une maison de retraite. N'allez pas choisir un terrain accidenté dès lors que la rançon des pensions ne saura pas vous permettre de construire. Il y a des terrains propres à des constructions coûteuses appartenant à une certaine catégorie de la population. Il y a des terrains propres à certains équipements où même si vous avez suffisamment de moyens, vous allez quand même vous sentir essoufflé lorsque vous lancez dans ce genre de constructions-là. Je prends le cas, par exemple, des terrains marécagés. Ce n'est pas n'importe qui va s'aventurer pour construire sur ce genre de choses. C'est pour cela que, de même, le choix, par exemple, l'acquisition du terrain, il serait toujours important d'impliquer l'architecte. Si, par exemple, le terrain est acheté pendant que vous êtes déjà en contact avec l'architecte, parce qu'il va vous orienter, de par les moyens que vous gagnez, à vous faire voir que non, ici, les types de constructions qui se réalisent sont généralement coûtés. Par rapport à ce que vous me présentez comme moyen ou revenu,
oui,
vous ne saurez peut-être pas finir cette construction dans un laps de temps.
D'accord, on y revient tout à l'heure, le temps d'accueillir des auditeurs. Socrate Songa nous appelle de Walikale, au Nord Kivu, Ogi Bendelo et Takikuit. Socrate, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Walikale, on vous écoute.
Oui, en fait, je me pose une question. Nous sommes à Walikale et nous avons des terrains, comme vient de le dire notre invité. Mais aussi, la question que je me pose, comment est-ce que nous allons construire avec les peu de moyens que les habitants peuvent disposer. D'autant plus que le territoire de Walikale qui n'a pas de route, pour avoir du ciment, il faut que ça vienne soit de Kisangani ou de Goma, mais aussi pour avoir des fers. Et ça coûte énormément cher. Vous pouvez avoir un peu de moyens. Et pour trouver tous ces matériaux-là, ça coûte énormément cher. Ça, c'est la première question. D'abord, je propose...
Dites-nous, le sac de ciment, vous dites que ça vient de Kisangani, et ça coûte combien à Walikale?
Ça coûte, c'est dans l'état, au minimum $30. Au minimum $30. Et imaginez-vous, M. Jedi, s'il fallait acheter 55 de ciment, ça va coûter assez cher. Ça, c'est d'abord une première préoccupation.
Oui.
Et la deuxième préoccupation, M. Jedi, je me demande, parce qu'il faut dire qu'à Walikale, il n'y a pas des architectes, mais il y a aussi des maçons. Et les maçons, là, si vous vous convenez avec lui, il y a les dialogues francs. Comme l'a dit notre invité, vous tenez un dialogue franc avec votre maçon, mais il arrive des fois, après avoir acheté le sac de ciment, il y a une mauvaise solution. Il faut une mauvaise solution. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un organe ou une structure qui peut aussi contrôler les architectes ou les maçons pour s'assurer normalement de la qualité de leurs travaux.
D'accord. Merci, Yogi Bendelo de Kikuita. Bonjour.
Je dis Daniel Kachama, bonjour. Bonjour à notre invité, M. Deshongando.
Oui, on vous écoute.
Merci, Jody, de m'avoir accordé la parole. Vous savez, Jody, au grand mot, il y a aussi grand médicament. Moi, j'ai toujours dit qu'on coule la vie à fonction des tissus dont on dispose. Par rapport à la construction, Jésus en a même parlé. Une personne, avant de construire, il doit d'abord s'asseoir et faire les calculs pour savoir est-ce que ce que je vais faire, je vais aboutir jusqu'au bon résultat ou non. Et maintenant, M. Deschaux a fait remarque, il a beaucoup conseillé, et il a parlé de beaucoup d'histoires là-dessus. Je voulais lui poser la question. Quel conseil maintenant peut-il donner aux architectes et à ceux qui ont besoin de construire, par exemple, un immeuble très immense là, mais qui a peu de moyens? Parce que, vous savez, construire, moi j'ai toujours dit que construire sans terminer, c'est détruire. On voit lors de circulation, aujourd'hui, vous allez remarquer qu'une maison construite en matériaux durables, mais la toiture est en chaume, je dis. Remarque un peu. C'est pourquoi j'ai voulu poser la question à M. Deshongando, qu'il puisse préciser quel conseil peut-il donner aux gens qui veulent construire. Il veut une maison grande, mais il a peu de moyens, et à l'architecte, parce que ce sont aussi les architectes qui rendent un mauvais conseil. Il sait bien que les messieurs, son client a peu de moyens, mais lui l'élabore à aller jusqu'au-delà, et maintenant la personne s'arrête au milieu parce qu'il n'a pas assez de moyens. C'est pourquoi j'ai voulu avoir des précisions auprès de notre invité. Merci, Jody, et c'était là ma seule question.
Bien, Laguiloa de Calémie, bonjour.
Bonjour, Jody, bonjour à l'invité et à tous nos filles à Calémie.
On vous écoute.
Merci beaucoup. J'ai seulement des préoccupations. Est-ce qu'avec notre invité, il n'y a pas une autre pratique de la construction qui a peu de dépenses qu'à celui qui a moins aussi de moyens? Et la deuxième préoccupation, quand nous constatons les architectes et qui ont des chantiers souvent, mais il fait souffrir celui qui a moins de quoi des possibilités. Est-ce qu'il faudrait-il faire plutôt à celui qui a cette habitude, hein? Parce que nous constatons quelqu'un qui n'a pas de moyens, mais tantôt l'architecte, soit celui qui fait son projet, soit son pari, le dérange. Tantôt il est ailleurs, demain il revient, ma femme est malade, il fait autre projet ailleurs. Voilà mes deux préoccupations. Qu'il faudrait-il faire soit pour réussir d'éteindre déjà des projets?
D'accord. Deshongando.
Ok, je... Vraiment, sur les trois préoccupations, elles sont distinctes. Je voudrais commencer par Socrate de Walikale, qui fait voir que les coûts de matériaux sont chers à Walikale, d'une part, et que d'autre part, il n'y a pas des architectes. Ils prennent généralement langue avec les maçons. D'emblée, il doit retenir que le maçon n'est pas le maître de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'a pas des capacités intellectuelles ni innées à pouvoir dresser un projet, c'est-à-dire concevoir et élaborer en devis et dresser cette planification pour déterminer que voilà, cette construction va commencer à X moment, elle va se terminer à Y moment. Les maçons n'ont pas qualité. Généralement, ce sont des erreurs lorsqu'on se fie aux maçons. Bien sûr, s'il y a l'absence de l'architecte, autrefois j'ai dit que l'architecte s'importe et s'exporte, c'est-à-dire qu'on peut faire venir l'architecte. Et faire venir l'architecte, s'il vient par exemple des grands centres, Messier Socrate va riposter pour dire par exemple que là c'est déjà beaucoup de moyens, là c'est déjà payer les billets d'avion pour lui, venir en revenir. Mais il peut venir trois fois par exemple et rendre votre construction meilleure, agréable. Il peut de loin par exemple, aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, nous savons communiquer. Je ne suis pas au studio pour le moment, mais je suis en train de passer l'émission. Donc de la même manière, par la voie téléphonique, il peut chaque fois donner les signaux forts pour dire que non, voilà, ici, c'est qu'on vous êtes en train de m'expliquer, j'ai comme l'impression qu'on tend à la dérive, on tend à ceci, on tend à cela. Donc, il est question, par exemple, avec beaucoup de volonté, oui, de pouvoir s'organiser et contacter même de loin un architecte et se faire des sacrifices pour le faire venir afin de lancer les projets à un moment donné au milieu, de voir l'évolution et projeter la fin du projet. Alors il fait allusion aux matériaux qui coûtent excessivement cher.
Oui.
Parce que là, dans les stéréotypes des personnes qui construisent, on ne voit que des matériaux de base. On ne voit que des blocs en ciment, on ne voit que des blocs vitrés, on ne voit que des toitures, des tôles, ceci, cela. Mais on oublie qu'avant que cela n'arrive, nos ancêtres construisaient. Il y a la terre qui sait produire aujourd'hui des briques cuites qui sont aussi beaucoup plus durables. Si par exemple à Walikale, les ciments coûtent cher, on peut recourir à des briques cuites et faire l'emboîtement où on ne met rien dans le joint. Ces techniques-là sont aussi, si vous allez à Kazangoul, vous verrez que la plupart des constructions sur la route des Bas-Congo sont construites avec des blocs en terre stabilisés qui ne nécessitent pas beaucoup de ciment pour les mortiers. Ça fait déjà une économie en grande quantité des mortiers des ciments. Et il y a par exemple la technique d'évoluer avec des murs porteurs. Les murs porteurs, c'est-à-dire que vous avez moins de colonnes, vous avez moins de structures, vous avez peut-être pas de lintons sur toute la surface de la maison, mais vous avez des murs qui sont en même temps porteurs de la charge des bâtiments. Donc aujourd'hui, je voudrais beaucoup plus être en face des clients, et que ça, c'est une série d'émissions que je suis en train d'inaugurer avec Okapi. Prochainement, avec certains de mes partenaires, confrères architectes, on interviendra beaucoup plus dans la responsabilité de l'architecte.
Voilà.
Ce que l'architecte sait faire pour alléger les coûts de la construction.
Voilà.
C'était une parenthèse.
Voilà, c'était une parenthèse. On va accueillir encore deux auditeurs avant de répondre aux autres questions. Malonga nous appelle de Kinshasa. Albert Mwananga est à Kananga. Nous parlons. Le thème du jour, c'est comment construire avec peu de moyens.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Comment construire sa maison avec peu de moyens, Malonga? Vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, je dis Kacham.
On vous écoute.
Bonjour à notre invité.
On vous écoute. Hein. Malonga, allô, quelle est votre question, oui?
Oui, moi en tout cas je remercie avec les explications que notre invité vient de nous fournir là-bas. Mais mon souci est de demander seulement, est-ce que l'État n'a pas un service propice pour soutenir ceux qui ont le peu de moyens? Puisque dans d'autres cieux, il y a un service que l'État organise pour servir sa population. Par exemple, si j'ai un petit moyen, est-ce que je ne peux pas me rendre à un service comme ça étatique, ou bien au prêtre, puisque ça se fait aussi, et puis je vais donner comme un crédit, et puis ils vont me construire comme l'urbanisation veut. Et puis si ça termine, je resterai comme je vais commencer à rester comme un locataire, oui. Et puis petit à petit, je termine pour avoir vraiment un beau bâtiment. Puisque aujourd'hui, ce qui provoque des incendies, des dégâts graves, puisque nous construisons mal, même les architectes d'aujourd'hui, ils ont besoin tellement de l'argent, ils ne tiennent pas compte encore des normes vraiment de la construction. Alors, ce que je demande à notre invité, est-ce qu'il peut nous orienter dans un bureau quelconque étatique qui peut nous garantir, même si j'ai encore un peu de moyens, je peux me rendre là-bas.
D'accord, on a compris.
Va me construire
une maison, voilà. Merci Malunga, merci beaucoup. Albert Mwananga de Kananga, bonjour.
Je dis Daniel Kachama, bonjour oui. À notre invité.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Albert?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est pour vous ouvrir une petite parenthèse. Moi, j'ai remarqué au village, il y a certaines personnes qui s'annoncent vraiment en creusant la terre de la fabrication des briques, parce qu'on a attrapé $100, c'est-à-dire on va creuser la terre pour fabriquer des briques, d'autant plus que et n'ont pas vraiment donc le moyen suffisant pour terminer la construction. Et par conséquent, la construction, monsieur Chouard, reste inachevée. Vous remarquerez, on construit un bâtiment comme ça, une maison plutôt, mais la toiture, c'est vraiment, ça peut prendre 3 ans à 5 ans, même 10 ans, ça reste toujours. On dit donc, on restera, donc. On va vraiment achever par
d'accord. Albert,
par votre personne.
Voilà, il vous reste quelques secondes. Oui. Passez à la question rapidement.
Oui, oui. Alors, j'aimerais demander à notre invité comment aider ces gens-là à vraiment à bien s'adapter à des telles conditions. Parce que vraiment, c'est malheureux pour ce genre de personnes.
D'accord. Jean des Dieux, vous êtes à Kikuit. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Allez-y, Jean des Dieux.
Oui, j'avais juste des préoccupations. Alors, ce qui me décourage, je m'imagine chez nous avec lui, parce que j'avais l'ambition de construire ma maison. C'était en 2009. J'ai sollicité un ingénieur, il a dit, il m'a donné le débit. Le débit, on a fait une totalité par rapport au moyen que j'avais en main. On a acheté tout ce qu'on avait demandé pour commencer à construire. Alors, on est arrivé à un certain temps où on me disait que non, pour acheter, pour ajouter l'argent passé, tout ce qu'on a acheté, cela était suffisant. Et comment expliquer ce que j'avais bien parvenu à apprendre pour que je puisse arriver à finir la construction. Maintenant, on n'a pas arrivé à la fin de la construction. Et les deuxièmes préoccupations.
Oui.
Maintenant, par rapport maintenant la maison construite, parce que ma grand-mère avait construit une maison de Luchemi, il y a eu une combat de mur pendant qu'il construisait maintenant.
Voilà, Jean des Dieux.
Maintenant, subir cette construction-là, parce que nous avons déjà donné ce qu'on puisse construire, et qu'à un certain temps, on a eu une combat de mur.
Voilà, vous dites que là, on n'a pas bien saisi la dernière question. Parlez un peu plus fort.
La dernière question est ceci. On a construit la maison. Maintenant, on n'a fait pas encore arriver à finir vers le maison là, ce qu'on appelait le maison.
Oui.
Maintenant, il y a eu une commande de mur. La mise s'est déroulée.
Oui.
Qui va maintenant subir ces contraintes pendant qu'on continue? C'est moi qui dois maintenant prendre avoir acheté d'autres matériaux tant que je n'ai pas volé.
D'accord.
C'est le génial.
D'accord, merci, on a compris. Alors, des choses, on va répondre rapidement aux questions des auditeurs, parce qu'on n'a plus assez de temps. Il y a Laguiloa de Calémie qui demande, il dit, les architectes, il a remarqué une pratique, les architectes là-bas, à Calémie, ils ont deux chantiers, bon, ils privilégient le constructeur qui a beaucoup d'argent, et l'autre est négligé, et ils font souffrir les autres clients qui n'ont pas assez d'argent. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, un peu de mots?
Ok, je voudrais dire à Laguiloa que, sur le plan de la déontologie,
il n'a pas eu affaire à un architecte. Vous savez, on a eu à fustiger les comportements de beaucoup d'architectes, entre guillemets, à telle enseigne qu'on se pose la question si réellement, si tout le monde qui se lance dans la construction, dans la cité, il est réellement architecte. Un architecte digne d'être appelé architecte et qui respecte la déontologie est capable de soutenir toute construction. Parce que la vocation première de l'architecte, ce n'est pas l'argent. C'est contribuer à l'embellissement de la ville. C'est contribuer, c'est aider la personne à avoir une habitation décente, un endroit, un environnement agréable, parce que cela prolonge la vie, l'existence. Donc, s'il a eu affaire à des personnes comme ça, il faudra qu'il se pose encore la question de savoir si réellement ce sont des architectes ou bien c'est quelque chose de semblable.
Voilà. Malonga de Bandundu, bon, il est à Kinshasa maintenant, il dit ailleurs, dans d'autres pays, un citoyen veut construire sa maison, il a un peu d'argent, il va voir un service de l'État, on lui accorde le crédit, on lui construit la maison selon le modèle que l'État a prévu, et la personne occupe la maison et il va commencer à payer petit à petit jusqu'à à rembourser l'argent, le crédit lui accordé, et puis il acquiert sa maison.
Ok, c'est ça l'idéal, Malonga. Les agglomérations qui ont existé dans notre pays à travers les différentes villes ont porté le nom de ce qu'on appelle les fonds d'avance. C'est-à-dire que les acquéreurs n'ont pas acheté du coup. C'est-à-dire qu'il y a eu des services de l'État. Vous vous rappelez l'Office national des logements, l'ONEL à l'époque, qui s'est lancé dans la construction et après ont procédé à la distribution de ces constructions-là aux citoyens. Moyennant l'avance et puis chemin faisant, on était arrivé à curer la dette. C'est comme ça parce que l'État, comme je l'ai toujours dit, c'est une grande société, devant prendre en charge les autres petites sociétés.
Mais actuellement, ce n'est plus le cas.
Dans une petite société, l'État la prend en charge pour l'aider à avoir un toit. Il y a aussi des banques d'habitat qui existent à travers les autres pays. Et chez nous, peut-être ça n'a pas encore existé. Mais vous savez que nous sommes un pays post-conflit. Nous sortons, nous venons de trop trop loin et que ce n'est pas du coup du jour au lendemain qu'on va pouvoir remettre tout cela sur les rails. Mais pendant ces temps, est-ce que les gens sont appelés à avoir toujours des problèmes de logement? Pendant ces temps, avec ce que les gens gagnent de peu, est-ce qu'on ne peut pas les aider à se construire des constructions, des édifices pour leur vie future, pour leurs enfants? C'est cela aussi, c'est que nous sommes en train de vulgariser. C'est pour cela que nous sommes en train de développer, plutôt nous développons l'expertise de l'économie de la construction pour voir comment alléger la construction. Est-ce qu'il faut toujours construire avec des colonnes? Est-ce qu'il faut toujours, si quelqu'un n'a pas peu de moyens, lui faire toujours des constructions avec des dalles, des 15, des 20, tout ça? Alors, cette réflexion-là, à notre part, nous a amené à pouvoir alléger la construction. Ça, c'est en amont. Et en aval, il faut aussi s'ouvrir aux clients, lui faire voir que non, voilà, vous ne pouvez pas commencer une construction et la finir tant que vous n'avez pas amorcé une communication, un dialogue ouvert avec les concepteurs de l'ouvrage. Vous ne pouvez pas bien finir la construction tant que vous n'avez pas fait un choix approprié du terrain. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire, Albert Bekikuit.
Voilà, et puis, Albert qui dit, bon, comment aider tous ceux-là qui commencent à construire et s'arrêtent en chemin, vous venez d'ailleurs de le dire. Les gens des dieux de Kikuit dit, on lui a fait un devis, et à un moment, l'architecte revient pour lui dire, voilà, le devis, on n'a plus rien, il faut ajouter, et pendant la construction, les murs s'écroulent sans qu'ils soient arrivés au niveau des linteaux. Alors, il veut savoir qui emporte la responsabilité, qui devra payer à ce moment-là. Est-ce que c'est l'architecte qui doit mettre de l'argent ou c'est à l'initiateur de pouvoir encore donner de l'argent?
En fait, avant d'arriver à cette responsabilité-là, je voudrais dès le départ faire voir à Jean de Dieu que la grande préoccupation ici, c'est que l'architecte qui a conçu le plan, l'architecte qui a élaboré le devis, le fait de manière conséquente. C'est-à-dire qu'il tient compte des incidences qui peuvent arriver, les chemins faisant. C'est ainsi qu'il y a la rubrique, par exemple, imprévue. Alors, si dans la rubrique imprévue et qu'il n'y a pas eu d'effet imprévisible, l'argent rentre. Ça rentre, ça profite aux autres étapes de l'exécution. Mais si l'architecte revient pour dire que voilà, le devis était insuffisant, c'est là que je me mets en faux, m'inscris en faux, je me dis que non, il n'a pas peut-être consulté un bon architecte. parce que le devis, il est vraiment conséquent. Lorsqu'on le fait, on a étudié tous les paramètres. C'est ça le travail de l'architecte, c'est ça sa formation. Il le fait pour que le client ne souffre pas dans la future, dans l'avenir sur une certaine incohérence dans la réalisation de l'ouvrage.
Bien. Donc, on retient, avant de terminer, il y a la question d'Alphonse Harou qui dit comment se fixe le prix à payer à un architecte pour un chantier? Est-il permis, on doit lui avancer de l'argent avant d'amorcer la construction?
L'architecte, il a des honoraires d'études, des honoraires des différents niveaux de la direction des travaux. Et les prix à payer sont en fonction de ces honoraires-là. Et je ne voudrais pas d'emblée, étant donné que ce sont des principes, j'espère qu'une fois qu'il est en contact avec son architecte, il lui définira très bien les honoraires, de quelle manière on y arrive à s'en sortir.
Voilà, on retient des choses pour terminer aujourd'hui, pour construire à moindre frais. La première chose, c'est qu'il faut contacter un architecte qui va élaborer un plan, qui va faire son devis. Et puis après, il faut avoir un dialogue franc avec l'architecte, lui dire combien vous avez exactement, et parce que ça lui permet peut-être d'échelonner les travaux si vous avez peu de moyens. Et puis le choix du terrain est également important. N'allez pas choisir un terrain marécageux qui va vous coûter beaucoup d'argent. Donc voilà, jusque là. Et vous avez dit aussi que vous venez de développer d'autres techniques qui permettent aux gens, qui vous permettent de construire à moindre frais, de faire l'économie de la construction. Des choses, nous vous disons merci. On aura l'occasion de revenir là-dessus une autre fois. Merci et à la prochaine.
Ok, merci beaucoup, Jody.